Panorama Économie.
Pourquoi les banques commerciales en RDC rendent difficile l'accès au crédit alors que la Banque centrale a revu à la baisse son taux directeur? Nous avons eu la semaine la réaction de l'Association congolaise de banques. Et puis, ils se sont réunis mercredi à Kinshasa. Les experts de services de douane de la Tanzanie et de la RDC cherchent un moyen pour diminuer les coûts de transit de marchandises par les ports de Dar es Salaam. 4 millions de francs congolais de plus dans la caisse de la DGCAT en Tanganyika, au Katanga. Cette direction affirme avoir réalisé des performances au mois de janvier 2014. Elle a récolté 56 millions de francs congolais au lieu de 52 millions prévus. À la présentation de Panorama économique ce samedi, François Kadima, nous avons comme invité bienvenue Bakoumania. Il est responsable du desk économie et investigation au groupe de presse Le Potentiel. Bienvenue, est avec nous en ligne. Bonjour, bienvenue.
Bonjour François.
Panorama économique, le dossier.
Parlons d'abord des conditions d'octroi de crédit par les banques qui ne permettent pas aux Congolais d'y accéder facilement. C'est malgré, selon la Banque centrale du Congo, l'amélioration de l'offre avec la revue à la baisse du taux directeur. En clair, la BCC dit ne pas comprendre pourquoi, malgré son faible taux directeur, les banques commerciales n'accordent pas facilement de crédit à la population. Cependant, à l'Association congolaise des banques, son président indique que l'accès difficile au crédit s'explique par le fait que la demande en crédit est de très loin supérieure au montant de dépôt que les banques reçoivent de la BCC. Écoutez Michel Losembe qui s'exprimait sur Radio Capi.
La Banque centrale a de bonnes raisons de le dire, étant donné que le taux d'intermédiation financière en RDC reste très très bas, un des plus bas au monde aujourd'hui, et que rien que par ce fait, il est difficile de pouvoir toucher tout le monde et de répondre aux besoins de tout le monde. Avant d'arriver au crédit, il faut d'abord lever les dépôts. Les banques ne peuvent prêter que ce qu'elles reçoivent. Et si on reçoit peu, on prête peu, fatalement. La demande en crédit est de très loin supérieure au montant des dépôts que les banques reçoivent. Et les banques ne peuvent pas prêter ce qu'elles n'ont pas reçu. Les conditions vont comprendre, bien sûr, le taux d'intérêt qui, en RDC, il est vrai, reste assez élevé. Mais les conditions aussi sont la capacité des entrepreneurs congolais, les PME pour la plupart, à réussir à identifier des projets et surtout à présenter de manière bancale les projets qu'ils voudraient voir financer. Donc nous sommes aujourd'hui dans une démarche où il y a un travail de formation et d'éducation des entrepreneurs et des PME congolaises et qui est d'ailleurs pris en charge par plusieurs organismes. Je pense à la FEC qui essaie d'encadrer ses membres, mais aussi d'autres associations patronales, Copemeco, FENAREP et bien entendu certains bailleurs de fonds qui s'intéressent à cela. Il est important aujourd'hui que les projets qui arrivent dans les banques soient le plus intelligible possible pour que les banques puissent évaluer le risque et éventuellement prêter l'argent de lever l'épargne publique.
Voilà, c'était Michel Losembe, président de l'Association congolaise des banques. Bienvenue, Bakoumania, vous êtes avec nous.
Bien sûr.
Voilà, vous avez suivi la difficulté, l'inquiétude par rapport à l'accès au crédit pour les Congolais. Les taux directeurs révèlent la baisse, mais les Congolais n'ont toujours pas accès au crédit dans les banques commerciales. Vous avez également suivi les raisons données ici par Michel Losembe de l'Association congolaise des banques. Lui dit que c'est parce que la demande en crédit est très loin supérieure au montant de dépôt que les banques reçoivent de la BCC. Votre réaction?
Oui, les règles, je pense que Michel Losembe a raison. Toutes les raisons évoquées se valent et se défendent bien. Mais moi, je veux plutôt insister sur la capacité des entrepreneurs congolais, plutôt l'incapacité des entrepreneurs congolais à présenter les projets bancables. Il y a une exigence de formation par rapport à cette question, parce qu'on ne va pas, les banques ne vont pas octroyer des crédits sans avoir des garanties de remboursement, des garanties suffisantes de remboursement. Les banques ne sont pas des institutions de charité. Les banques, quand ils prêtent, c'est pour que les prêteurs puissent avoir la possibilité de rembourser. Et là, lorsque le projet n'est pas bancable, lorsque les PME présentent des projets qui ne sont pas bancables, ne soyons pas étonnés que les banques commerciales ne puissent pas accorder de crédit. Les banques ne sont pas des institutions de charité, je le répète et j'insiste. Les banques appliquent les règles prudentielles qui permettent à ce qu'elles ne puissent pas tomber dans des difficultés, elles ne puissent pas fermer boutique, mettre la clé sous pression, simplement parce qu'ils ont prêté de l'argent aux entrepreneurs qui n'ont pas été capables de rembourser. On a connu ici dans ce pays les cas de la déréalisation. Les gens ont été dotés en moyens et en stock, et ils les ont consommés sans penser au remboursement de ce qu'ils avaient reçu. Et conséquence, l'État était obligé de prendre en charge tout ce qui était comme produit négatif de la déréalisation. Les banques commerciales, elles, ne sont pas prêtes à prendre pareil risque, parce que s'ils prennent pareil risque, ils vont absolument fermer, même si le taux directeur de la Banque centrale était de 0%, lorsque les garanties de remboursement ne sont pas suffisantes, dites-vous, les banques n'accorderont pas de crédit.
Oui, Michel Ossembe l'a également dit, il y a question de formation pour comprendre comment il faut formuler des projets bancables. Est-ce qu'il ne fallait pas que la Banque centrale, avant de continuer à baisser les taux directeurs, pense déjà à cette formation par rapport aux projets bancables?
Oui, écoutez, ça ne se décrète pas, la formation. Il faut instaurer une culture, c'est toute une culture. Nous, on n'a qu'à voir qui nous formons dans notre pays. C'est un tout. La crise, elle est globale. Pour moi, ce n'est pas simplement parce qu'on aurait formé pendant tant toujours un entrepreneur dans la manière de gérer sa petite boutique, son petit ligablo, qu'il pourrait acquérir comme ça les aptitudes à rembourser une dette contractée auprès d'une banque. C'est une affaire de culture. On doit avoir cette formation. Dans les universités, dans les universités, on doit déjà avoir des gens qui sont formés et qui sont préparés à ce qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, quand ils contactent des dettes, ils puissent avoir la capacité de les rembourser et la volonté de les rembourser, les obligations de les rembourser. Je pense que cette formation doit venir un peu plus en amont. Ça doit être une décision gouvernementale, une volonté politique affichée de permettre aux Congolais. On a eu dernièrement la francophonie avec les femmes. On a insisté sur les PME et les petites et moyennes entreprises. Ce sont des jeunes qui sortent de l'université déjà. S'ils sont formés formés dans cette culture, ils sont formés dans un moule où ils ont la capacité de comprendre que les affaires, c'est avec le crédit. Et le crédit, il faut savoir les rembourser en fructifiant les affaires. En ce moment-là, on peut dire on a réussi quelque chose. Ça ne se décrète pas. Ça s'est construit petit à petit. Et je pense qu'on est en retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Voilà, je rappelle que nous sommes dans Panorama économique, que nous avons comme invité bienvenue Bakoumania. Il est responsable du desk économie et investigation au groupe de presse Le Potentiel. Nous allons prendre le deuxième sujet de la semaine. Au Katanga, les longues files de véhicules au poste frontalier de Kasumbalesa font parler d'elle, sujet pour lequel le numéro 1 de la Direction générale des dons assises, DGDA, avait effectué une mission sur place donc dans cette province. But, voir comment désengorger la douane de Kasumbalesa, où une longue file de grands camions s'étend habituellement sur plusieurs kilomètres, donc sur la route de Kasumbalesa, attendant de traverser la frontière zambienne. Au micro de Karine Topé, Deoruguiza annonce qu'une série de mesures a été prise pour désengorger la douane. On l'écoute.
Nous avons décidé de séparer les tracts qui ont tous les documents, c'est-à-dire les documents de douane, mais également les preuves d'un cautionnement, d'une garantie qui est exigée par la douane zambienne et qui parfois freine le trafic, freine le flux des mouvements. Donc ça, c'est une deuxième mesure. Une troisième mesure que nous avons prise, c'est que désormais, au bureau de dédouanement à l'exportation, les commissionnaires en douane, les agences en douane devront, en plus des documents habituels, présenter justement la preuve de la constitution de la garantie. Ça, ce sont les mesures que nous avons prises de notre côté. Du côté de la Zambie, parce que nous avons été également en Zambie, échangé avec nos collègues, la douane zambienne nous a informé que désormais, ils vont travailler, non pas seulement jusqu'à 18h, mais jusqu'à 19h. Aujourd'hui, deux jours après notre passage à Kasumbalesa, je peux vous dire que les choses se normalisent. La longue file qu'on a constatée n'y est plus. La file qui venait de Whisky, donc de Kasumba Whisky, jusqu'à la frontière, n'y est plus. Ce que nous allons faire, c'est d'essayer d'éviter que cet engorgement ne reprenne.
comment désengorger la douane de Kasumbalesa. Vous avez suivi la série des mesures annoncées par le DG de la DGDA.
Écoutez, François, parfois dans notre pays, nous avons des solutions à portée de la main. Hein, on en fait des mystères pratiquement, on en fait des sujets extraordinaires hein, pour désengorger. D'ailleurs, s'il y a engorgement, c'est nous qui perdons, c'est nous qui sommes perdants. Et toute cette batterie de mesures que le DG Rugwiza, hein, dans la compétence éprouvée, reconnue par tous les Congolais, si donc cette batterie de mesures était prise déjà bien avant, on aurait maximisé le recette. Hein, on prend tout son temps, on perd le temps, et le pays perd aussi en termes de crédibilité, et puis on réagit un peu en retard, comme si dans notre pays, les urgences, on aime travailler dans les urgences, on ne voit pas la planification, on ne fait pas de la planification. La Direction Générale de Douane du Katanga, c'est la première direction, c'est en termes de mobilisation de recettes, hein, vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, et le Katanga a détrôné le Bas-Congo en termes de recettes réalisées, mobilisées. C'est-à-dire que c'est une direction qui devrait vraiment bénéficier de l'attention, de la particulière attention de la Direction Générale de Douanes de la République démocratique du Congo. Malheureusement, je pense que cette manière de gérer les choses de l'État, malgré toutes les compétences qu'on a dans notre pays, cette manière de gérer les choses de l'État, comme si on disposait de tous les temps, alors que le pays est en crise, nous devons nous fournir des efforts, le DG Rugwiza devra fournir des efforts pour que prochainement on ne puisse plus assister à des séances marathon avec tambour et trompette pour démontrer qu'on a fait quelque chose. Il faut que ça soit dans la gestion normale de la DGDA, de voir que dans 3-4 jours, on peut avoir des longues files et de s'ajuster conséquemment pour qu'on puisse éviter à l'État de ne pas avoir les fonds tels que c'était prévu, les assignations telles que c'était prévu. Je pense qu'on doit vraiment rivaliser l'initiative pour que la gestion de la chose publique soit une gestion managériale, un management du type voulu tourner vers les objectifs, du type voulu tourner vers les performances. Et là, quand on est tourné vers les performances, on s'adapte, hein, on s'adapte à toutes les difficultés, on projette même les difficultés à venir et on les contourne.
Voilà, nous allons toujours parler de la douane. La RDC et la Tanzanie tiennent à la mise en place d'un territoire douanier unique pour diminuer le coût de transit de marchandises hein, par les ports de Dar es Salaam. C'est dans ce cadre que les experts de services de douane de ces deux pays se sont réunis. Maître Ida Kinshasa pour réfléchir sur la nouvelle procédure des dédouanements de marchandises applicable par la communauté de pays de l'Afrique de l'Est. Déjà, le désadministration douanière avait signé un accord d'assistance mutuelle administrative en 2012 dans la capitale tanzanienne. Pour les directeurs généraux de la DGDA RDC, la démarche vise à lutter sensiblement contre la fraude douanière. Écoutons Léo Rugwiza.
Les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est ont décidé d'associer tous les pays non membres de l'EAC utilisant le port de Dar es Salaam pour le transit de leurs marchandises de devenir partie prenante du territoire douanier unique. Cadre mis en place par l'EAC pour faciliter les échanges commerciaux. La nouvelle procédure douanière applicable au transit est dictée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Cette procédure douanière dite Single Customs Territory, il faut traduire territoire douanier unique, a comme objectif 1. La réduction du coût de transit, 2. L'utilisation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, 3. La coordination efficiente de tous les bureaux de dédouanement des marchandises déclarées en transit à partir du port de Dar es Salaam. 4. La maîtrise des statistiques du flux des marchandises à destination de la RDC. 5. La mobilisation et la maximisation des recettes du trésor public. Et 6. La lutte contre la fraude.
Voilà, bienvenue. Vous avez suivi les DG de la DGDA. Le port de Dar es Salaam, c'est un port qui représente beaucoup d'intérêt pour les pays de l'Est. Il y a également la RDC qui utilise ce port. Pourquoi créer un territoire douanier unique? C'est quoi les avantages réellement pour nous?
Oui, si on prend les flux qui viennent de la Chine et qui pénètrent à la RDC par le port de Dar es Salaam, par la Tanzanie. Donc, on se rend compte de l'importance stratégique de ce point d'entrée pour la République. Et on a l'intérêt, comme exprimé par De Rugiza, donc par la DGDA, de créer cette zone unique est bénéfique dans la mesure où les coûts vont baisser sensiblement et la gestion informatique grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication vont permettre à ce que à partir de Kinshasa ou à partir de la République démocratique du Congo, on puisse suivre en temps réel ce qui se passe réellement, les marchandises destinées au pays ainsi que les formalités à accomplir pour que ces marchandises puissent arriver à destination. Donc c'est une avancée significative si l'on peut déjà assouplir les procédures et diminuer les coûts. C'est déjà une avancée et une grande avancée pour la RDC, d'autant plus que lorsque les rotations sont importantes, même si les taxations sont un peu coûteuses, vous aurez à réaliser un maximum de recettes. Et je pense que c'est la stratégie que De Rugiza et toutes les compétences qui l'entourent au niveau de la DGDA ont adoptée. Et fort heureusement, la partie tanzanienne a été également réceptive. Elle a compris certainement la pertinence de cette démarche congolaise qui, vous savez, la Tanzanie aussi a intérêt à ce qu'il y ait plus de marchandises qui entrent. Ça veut dire plus de recettes pour elle-même, les recettes de transit. En assouplissant les conditions, ça va permettre à ce que le volume et la qualité de la marchandise puissent également augmenter. Et ce sera pour le bonheur de toutes les parties.
Voilà, nous allons prendre une autre actualité de la semaine. La direction des recettes du Katanga, bureau du Tanganyika, s'est réjouie d'avoir réalisé donc des performances au mois de janvier 2014. 56 millions de francs congolais de recettes pour ces 52 000 comme assignation. La DGCAT, bureau du Tanganyika, fait toutefois état de plusieurs difficultés rencontrées. C'est ce que nous dit Expedi Mwamamubi dans cet élément.
D'après les responsables de la direction des recettes du Katanga, bureau du Tanganyika, les réalisations au mois de janvier 2014 ont été de l'ordre de 56 millions de francs congolais contre 52 millions d'assignations. Odilon Muyumba, chef de bureau des recettes du Tanganyika.
Cette année, nous avons les assignations de 52 millions que nous avons encore atteint et dépassé au mois de janvier puisque nous avons réalisé 56 millions.
Et pour avoir bien fait, le bureau du Tanganyika vient de se voir assigner des millions de francs supplémentaires par le gouvernement provincial. Désormais, les assignations sont portées à 84 millions de francs. Pourtant, tout ne se passe pas comme sur des roulettes. Le chef de bureau, Odilon Muyumba, épingle quelques difficultés qui gênent son service.
Vous savez, nous ne sommes pas seuls sur terrain. Il y a nos amis des services d'assiette qui ne nous comprennent pas, mais du côté des autorités aussi, qu'il y a nos agents qui sont à Moba, qui sont menacés d'arrestation, c'est pas normal. Nous ne faisons pas la politique.
Kalemi, expédie-moi Bamoubi, Radio Okapi.
Voilà, bienvenue Bakoumanian, vous êtes avec nous.
Bien sûr que je suis avec vous et que j'ai suivi avec beaucoup de pertinence les propos. On constate tout le monde que les Congolais, lorsqu'ils sont mis dans des meilleures conditions, ils sont capables de réaliser des merveilles, ils sont capables de réaliser des performances. Et vous constaterez également que bien encadrés, les recettes de l'État peuvent aller, peuvent être boostées. Mais ici, je lance un appel vivant au gouvernement. Il faut que les rétrocessions dues aux administrations qui ont en charge la mobilisation de recettes soit effectivement rétrocédé. Le cas de plus-value, souvent, il faut que les agents de la douane puissent, ou de la douane ou de la DGD ou de la DGI, puissent aller en grève pour que le gouvernement pense à les rétrocéder. Je pense que l'heure est venue pour les encourager. Et lorsque ces rétrocessions se seraient faites, je pense que l'assignation des 84 millions qui leur a été faite, nouvellement faite, ils vont la réaliser et même peut-être la dépasser. Et dans cette course freinée vers des performances, c'est la République qui en sort bénéficiaire, c'est la République qui, à travers les ressources internes et les ressources propres mobilisées, hein, pourraient compenser le manque à gagner, parce que vous le savez, l'extérieur ne nous donne plus suffisamment d'argent.
Je voulais justement parler de la rétrocession. Beaucoup de recettes mobilisées, mais les provinces ne se retrouvent pas.
Écoutez, le problème de la rétrocession de recettes, c'est une épineuse question pour laquelle une réponse lapidaire ne pourrait pas donner satisfaction. Hein, il y a des provinces qui n'ont pas suffisamment de moyens, il faut faire des péréquations, faire des arbitrages, et il y a une formule qui a été trouvée par le gouvernement avec les différentes provinces pour que les uns et les autres se retrouvent. Si les grandes provinces telles que le Bas-Congo, les Katanga, Kinshasa se plaignent, les autres ne se plaignent pas, parce que aujourd'hui, si l'on demande à ces provinces de retenir à la source les 40%, dites-vous, il y a de ces provinces qui ne vont même plus fonctionner. Donc, par principe de solidarité de la République, au sein de la République, les arbitrages qui sont opérés actuellement sont dans une certaine mesure à encourager, mais il faut le plus possible aller vers ce que dit la Constitution, aller vers ce que prévoit la Constitution, c'est-à-dire opérer des retenues à la source par les différentes provinces pour leur permettre de se gérer correctement et permettre aussi aux provinces dites pauvres de trouver des formules pour qu'ils puissent avoir des recettes avec les différentes richesses à l'interne. Ils peuvent se trouver des recettes et ainsi permettre à ce que la République puisse vivre correctement. Il y a d'ailleurs en cette semaine une réunion au niveau dans l'élaboration du budget, la consolidation du budget. Je pense que les différents responsables vont en tenir compte et les différents responsables des provinces pourront proposer des recettes innovantes au niveau de leurs provinces respectives.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Prenons l'actualité en bref. Bonne nouvelle pour les clients de deux coopératives d'épargne et de crédit dont la Banque Centrale du Congo a retiré l'agrément depuis 2012 au Maniema. Celle-ci, en faillite, était dans l'impossibilité de rembourser l'argent de leurs membres. Ces derniers ont bénéficié de 50% pour la COPECED et 100% pour un SADA Wetu. Le montant global est de 60 000 $ pour les deux. Le client qui salue le geste posé par la Banque Centrale du Congo exige des poursuites judiciaires. Et puis sachez que l'interdiction d'accès des véhicules donc de moins de 10 ans en RDC a affecté les activités des banques au niveau du port de Boma. Déclaration du gouverneur de la Banque Centrale du Congo après une séance de travail avec les responsables des différentes banques de la province du Bas-Congo. Pour remédier à cette situation, Deo Gracias Mutombo annonce des propositions qui seront présentées au gouvernement central. En bref également, la relance des activités de la COPEC Imara à Kindu, c'est les résultats de la mission des 60 jours qu'effectue une délégation de la Banque Centrale du Congo. Objectif, redresser les activités de cette coopérative d'épargne et de crédit qui était en cours de liquidité, mais aussi sécuriser ceux qui y ont épargné et amené tous les créanciers à honorer leur crédit. Bienvenue, Bakoumania, vous êtes avec nous.
Bien sûr, François.
Voilà, un commentaire à placer sur l'une ou l'autre actualité passée tout à l'heure.
Oui, je salue les efforts qui sont fournis dans l'encadrement des coopératives. C'est par là les coopératives, le financement des micro-entreprises, des micro-industries, c'est par là que le développement de la République démocratique du Congo pourrait venir. C'est par là que les autres sont passés pour obtenir leur développement. Il ne faut pas se voiler la face et aller chercher le développement ailleurs, alors qu'il y a moyen d'aller vite en besogne en encadrant les PMI et les PME à travers des coopératives. Mais souvent, la question que je me pose lorsque les mises des gens ont été dilapidées par une coopérative et qu'on a pu rembourser comme ça 50 ou 60%, et qu'on ne dit pas à quand on va rembourser les 40 autres %. Ça démontre que la Banque centrale est défaillante dans son, dans sa mission d'encadrement des structures financières de la République. Et la Banque centrale a intérêt à ce que ces opérateurs économiques rentrent dans leurs droits et que les gestionnaires véreux, les gestionnaires indélicats, ça traduit donc devant les cours et tribunaux, afin que ça décourage d'éventuelles autres émules qui pourraient éventuellement se dire qu'on peut dilapider impunément l'argent des contribuables, des épargnants congolais. Je pense que lorsqu'on a pris l'option, on a pris une option pareille d'encadrer les coopératives, il faut aller jusqu'au bout, suivre leurs évolutions sur le terrain et éviter que les épargnes de paisibles congolais ne soient dilapidées par des indélicats gestionnaires.
Panorama économique, reportage.
Notre portrait de la semaine. La campagne agricole en cours au Sud Kivu commence à produire des fruits. La ministre provinciale de l'agriculture annonce que la récolte de haricots est très bonne dans le territoire du Kalehe, Kabare et dans une partie du Walungu. Elle espère que la récolte attendue du riz et de manioc sera aussi meilleure et pourra contribuer à la réduction de la dépendance alimentaire du Sud Kivu vis-à-vis des pays voisins. La province a besoin d'environ 900 000 tonnes de vivres pour combler les besoins ressenti dans la province. Jean Kassami, reportage.
Les besoins en vivres exprimés par la province du Sud Kivu est constitué de maïs, 258 696 tonnes, de manioc, 233 513 tonnes, du riz, 130 493 tonnes, de haricots, 155 676 tonnes et d'arachides estimés à 107 599 tonnes. Les documents de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté élaboré en 2010 démontrent que la province accuse encore un déficit énorme en chacune de toutes ses variétés de produits alimentaires. La ministre provinciale de l'Agriculture s'engage à tirer la meilleure part de la campagne en cours pour que les potentialités agricoles du Sud Kivu profitent pleinement au Sud Kivu. Adolphine Moulay.
La campagne évolue très bien. Nous sommes en train de maintenant faire l'évaluation, la visite des différents sites. Nous avons une délégation de Kinshasa qui a aussi fait les suivis et ils ont apprécié la récolte. Nous avons récolté seulement les haricots et la récolte n'a pas été mauvaise.
Le ministre provincial du Plan, pour sa part, reconnaît qu'il existe un programme d'action prioritaire pouvant conduire à la matérialisation de la campagne agricole en cours. Bukavu, Jean Kassami, Okapi Économie.
Voilà, Jean, oui, bienvenue Bakoumania, vous êtes là?
Oui, bien sûr, François.
Voilà, la campagne agricole, les gouvernements centrales, avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, s'y est tellement investi, et on sent que dans le Sud Kivu, comme a dit tout à l'heure la ministre provinciale de l'Agriculture, commence à produire des fruits.
Vous savez, cette partie de la République a toujours été le grenier de la République entière, en haricots, en pommes de terre, rappelez-vous, ça venait de ce côté-là. La guerre a ravagé certaines infrastructures, mais avec le projet du gouvernemental de réunification de la République, nous espérons que le haricot va nous arriver ici en quantité. Et cette campagne financée sur fonds propres du gouvernement et encadrée sur le plan local par un gouvernement compétent, c'est ça aussi le problème. Lorsque il y a de l'argent qui est mis à disposition et qu'il n'y a pas de compétences pour bien le gérer, ça pose problème. Mais là, on a l'impression que ça porte des résultats. Nous espérons que ça sera pareil pour toutes les provinces de la République. Si nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire avec les produits locaux et ainsi améliorer notre balance de paiement en économisant des devises, parce que vous le savez, on importe pratiquement tout. On importe tout ici dans les alimentations de Kinshasa. On a les pommes de terre qui viennent de l'Afrique du Sud, voire d'Europe, de mauvaise qualité, des oses avec des pommes de terre génétiquement modifiées. Alors on peut avoir des pommes de terre bio qui viennent de Kivu. On peut même avec le temps arriver à les exporter, parce que lorsqu'on a de la nourriture bio, dites-vous, de l'autre côté, outre-Atlantique, c'est prisé, on se l'arrache et les gens sont prêts à payer le prix pourvu que ça soit naturel, et nous avons cette possibilité de produire de manière naturelle sans beaucoup de difficultés.
Voilà, merci, bienvenue Bakoumanya. Je rappelle que vous êtes responsable du desk économie investigation groupe de presse Les Potentiels. Vous étiez invité de Panorama économique ce samedi. On va se quitter là. La présentation était signée François Kadima, la mise en onde tenue par Mimi Kindou. Cette émission a été coordonnée par Julien Niamouini. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.